Je m'appelle Christophe Lamarre, j'ai 52 ans. Je me suis installé à Roubaix en 94, le lendemain de ma thèse. J'avais 28 ans quand je me suis installé. C'était le cabinet d'un médecin généraliste installé là depuis une quinzaine d'années, qui cherchait un associé parce qu'il avait trop de travail. Il était installé dans un quartier de la ville de Roubaix parmi les plus défavorisés. Il a fait un infarctus à 47 ans. Dans son cabinet. Il est mort. Donc, j'ai dû chercher un autre endroit dans le quartier et je me suis dit, je vais faire une maison médicale. Il faut que je propose aux gens du quartier ce dont ils ont besoin. Donc, on s'est retrouvés, on était 10 professionnels de santé. On était deux médecins plein temps, un médecin mi-temps, quatre orthophonistes, un gynécologue, deux kinés. On était toujours ouverts parce qu'on se relayait en fait. Du matin très tôt jusque tard dans la nuit. Et alors, le truc, c'était une ruche. Ça ne désemplissait pas. C'était en plein milieu du quartier. Et c'était devenu pour les gens un centre de santé, mais de référence. On était deux médecins avec salle d'attente commune et deux cabinets côte à côte. Je commençais entre 7h et 7h15 et je finissais le soir jamais avant 21h. Et comme il y avait une consultation libre, les gens pouvaient rentrer librement. Et donc, nous, notre salle d'attente, elle continuait à se remplir. Et si elle était remplie de 40 personnes le soir à 20h, il fallait les voir. Et puis, quand quelqu'un rentre pour faire un vaccin, ça veut dire qu'on fait le vaccin et puis... On demande si la personne n'est pas malade, on jette un petit coup d'œil, une minute, et on fait le vaccin, et hop, la personne repart. Et puis, si on reçoit quelqu'un de dépressif qui se met à pleurer, ben, on va passer un peu plus de temps. Mais dans tous les cas, on regarde sa montre, parce qu'on pouvait avoir, des fois, 5 heures de retard. Je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, quand vous avez une salle d'attente dans laquelle il y a 40 personnes, qu'il est 20 heures, les gens, ils ont une montre, ils sont pas débiles. S'ils voient que vous êtes arrivé à 20 minutes de consultation et qu'ils voient que ça bouge pas, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent toquer à la porte de votre bureau. Au début, ils font toc toc toc, tout doucement. 30 secondes après, comme ils voient que ça ouvre pas, ils font boum boum boum. Et puis ils finissent à coup de pompe, quoi. À coup de pompe dans la porte, juste à ce que vous ouvriez. Puis ils disent, mais vous faites quoi là? Eh, ça fait une demi-heure que vous êtes là, on est 40 dans la salle d'attente. Ils interpellent le malade, ils disent, oh, tu fais quoi là? Tu racontes ta vie ou quoi? Hey, c'est pas un psychiatre à la main, dépêche-toi. Voilà, comme ça. Et puis on n'était que deux médecins. Un jour, mon associée, elle avait mis des rendez-vous toute la journée. Moi, j'étais de consultation libre. Et elle vient pas. Elle vient pas, elle a un imprévu, elle vient pas. Donc ce jour-là, moi, je me suis retrouvé avec 150 personnes à voir. J'ai réussi à en voir 104, tout en ayant fait 20 actes gratuits. Donc, ce qui faisait 124 ou 126 actes, mais j'ai fait le tour du compteur. J'ai travaillé 24 heures non-stop. Quand je suis sorti, il faisait jour, et il y avait des gens qui commençaient à arriver pour la consultation du jour. Donc, j'ai dû leur expliquer que je travaillais depuis la veille et qu'il allait falloir que j'aille dormir un petit peu. Surtout que mon associé ne venait pas non plus ce jour-là. Donc, je leur ai dit, le cabinet est fermé ce matin et je reviendrai en début d'après-midi. Et j'ai dit ça plus jamais, quoi. Un jour, tu vas faire une très grosse connerie. Parce qu'on peut pas être concentré la 23e à la 24e heure. Forcément, si on a un gros diagnostic à faire, c'est pas ce jour-là qu'on va le faire. Et en plus, là, on va vers la crise cardiaque à 47 ans, comme mon premier associé. Un jour, c'était une fin de semaine où ça avait été particulièrement difficile. J'étais tout seul dans le cabinet, mon associé était en vacances. Donc là, obligatoirement, obligé d'absorber le boulot de deux personnes et pas plus de 3 heures de sommeil par nuit. Et le vendredi soir, il restait 15 personnes dans la salle d'attente, il était minuit. Et j'ai fait une crise d'épilepsie. Donc, paf, j'ai convulsé. Donc, ce sont les patients qui ont appelé le SAMU. et le SAMU qui est venu me chercher. J'arrive à l'hosto, en fait, les médecins, ils me trouvent squelettique, complètement épuisé, les médecins qui s'assoient sur mon lit et puis qui m'écoutent pleurer et puis qui essayent de me rassurer, me dire qu'il faut que je me repose, que je change de manière de travailler, certains qui me disent que je dois partir parce que je vais pas y arriver. Et puis moi, de nature optimiste, j'écoute pas, je me repose pas vraiment, je me fais pas suivre. Je pense qu'il y a une seule chose, c'est aux patients qui ont plus de médecin, là, comment ils font, madame machin, monsieur truc, l'autre à qui on devait piquer ses gosses, parce qu'ils sont malades et tout, comment on va faire. Et du coup, je retourne bosser. On a pris un troisième médecin et on s'est mis sur rendez-vous. Parce que j'ai dit, la consultation libre, c'est ça qui m'a fait faire mon burn-out. Donc mon activité diminue de 40%. Grosso modo, je passe de 55 patients par jour en moyenne à 25. Quoi. Je suis plus en suractivité. Et pourtant, moins d'un an après, je reçois une lettre recommandée qui me dit, voilà, la caisse primaire d'assurance maladie vient de vous mettre en contrôle d'activité. Donc nous allons étudier votre activité, nous allons être amenés à peut-être vous demander des dossiers médicaux et aussi à convoquer des patients que vous soignez ou carrément aller chez eux s'ils ne peuvent pas se déplacer ou s'ils ne veulent pas se déplacer. On ira chez eux les interviewer. Donc je dis bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc je laisse faire. Et alors là, c'était le délire. Les patients, ils sont tombés, mais alors, du grenier à la cave. Parce que quand ils se sont retrouvés devant le médecin conseil qui les interrogeait, le médecin conseil leur a dit, voilà, votre médecin fraude. C'est pas physiquement ni matériellement possible d'avoir des journées à 80, voire 90 personnes. Donc, il fait des actes fictifs, qui nous facture, qui nous envoie. Ou alors, vous êtes dans la salle d'attente, il vous fait une ordonnance contre la carte vitale, il vous la donne, vous partez. Voilà. Et le médecin conseil énumère au patient qu'il a en face de lui une liste de fraudes et il lui dit, si à un moment vous reconnaissez quelque chose que le docteur Lamar fait, vous m'arrêtez et puis on en discute et après vous signez le papier. En fait, c'est une déposition. Quand j'entends les patients en train de me raconter ça, je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc je fais un courrier au directeur de la Sécu. Et puis je me dis, je vais aller porter les courriers en main propre pour être sûr qu'ils les aient. Et donc j'arrive, service gestion du risque, madame Dell. Et là, elle voit ma tête, quoi. Et elle comprend que je vais pas bien. Et elle me dit, on va faire une réunion avec le directeur, le médecin-chef. Donc elle organise la réunion la semaine d'après. Donc je me retrouve dans les locaux de la Sécu. Immense salle. Et j'emmène ma femme et mon associé. Et là, je me retrouve avec le directeur sur une estrade, avec le sous-directeur, enfin tous les chefs de service. Et là, en fait, je me prends, mais alors, que des baffes, quoi. On vous a pris la main dans le sac. Et donc moi, je me défends, je dis, mais vous m'avez pris quoi ? C'est quoi cette histoire ? Je comprends pas. Oui, oui, vos consultations, vous faites des actes fictifs, on a trouvé des incohérences. Je dis, là, je comprends pas. Ouais, mais faites celui qui comprend pas. Nous, on a les chiffres et on a les ordinateurs. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et ils me menacent. Vous allez avoir une plainte au tribunal pénal. Vous pouvez avoir des interdictions d'exercer, rembourser tout le trop perçu et avoir des pénalités financières. Quand je sors de là, j'ai plus de voix, je peux plus parler. C'est même pas moi qui conduis ma voiture, quoi, en sortant. J'ai dit, Isabelle, tu conduis parce que moi, je suis plus en état, là. Donc, ils font un rapport. Et ce rapport, ils le transmettent au Conseil de l'Ordre des médecins. Ils saisissent le Conseil de l'Ordre et arrive une audience particulière dans les locaux du Conseil de l'Ordre. Donc, la plainte pour fraude, elle a sauté parce qu'il n'y en avait pas. Voilà. Mais ils ont gardé la plainte pour exercice potentiellement dangereux de la médecine. Parce qu'ils ont pris le nombre d'heures que je faisais, l'amplitude horaire. Avec les cartes vitales, on sait à quelle heure vous commencez, on sait à quelle heure vous finissez. Donc quand ils voient une carte vitale qui passe à 7h15 et que la dernière elle passe à 3h30 du matin et que en fait il n'y a pas d'interruption, que toute la journée il y a des cartes vitales qui passent, ça ne s'arrête pas pendant 2 heures pour aller manger. Ils se disent bah là c'est pas possible. Donc le dernier, il me dit, est-ce que vous vous rendez compte que les patients qui sont soignés dans la dernière heure, ils sont vachement moins bien soignés que les premiers? Mais oui, je le sais, je me rends compte, je suis pas complètement con, mais je dis, comment voulez-vous que je vire les gens qui sont dans ma salle d'attente? Et quand bien même je les empêcherais de rentrer, je voudrais les empêcher de rentrer, expliquez-moi comment je ferais pour fermer ma porte. Et là, il y a un des médecins du jury qui s'est levé. Et il m'a dit, bah, pour fermer la porte, c'est pas compliqué. Il a sorti son trousseau de clé. Puis comme ça, il a mimé dans le vide. Il a dit, on prend la clé, on la met dans la serrure, on fait clac, clac, et voilà, la porte est fermée. Et tout ça dans son beau costard de marque. Du haut de ses 75 ans, je pense qu'ils avaient tous plus de 70 ans. Alors que ces mecs-là, je les mets dans mon cabinet, ils tiennent pas 2 heures, quoi. Au bout de 2 heures, ils appellent leur mère, hein. C'est impossible. Donc en première instance, au Conseil régional de l'Ordre des médecins, j'ai pris donc 4 mois de suspension, dont 2 avec sursis, donc 2 fermes. Et ça fait mal, c'est douloureux à vivre. On a envie de crier. Du coup, cette suspension, ça a cassé quelque chose à l'intérieur de moi. Ça a fait comme si je me retrouvais stigmatisé par rapport à la famille des médecins. Et comme si, en fait, il y avait un lien familial rompu dans la famille des médecins. C'est comme si j'étais plus quelqu'un d'honorable, quoi. Et que donc, je dois plus avoir d'honoraires pendant 2 mois parce que je suis pas quelqu'un d'honorable. Et puis, quand j'ai repris, je me suis réconcilié avec mon métier uniquement grâce au plaisir que j'ai à l'exercer, à la fierté que ça me procure, à la reconnaissance des gens que je soigne. Uniquement ça.